Bienvenue sur ce podcast intitulé NatCoach Podcast. Je suis Eric Rebourg, cadre technique d'État à la Fédération Française de Natation et j'ai créé cet outil à l'intention des entraîneurs de natation afin de favoriser un échange d'expériences sur l'entraînement et tous les paramètres du métier d'entraîneur. Au cours des différents épisodes, j'échangerai avec des entraîneurs ainsi qu'avec des experts qui interviennent auprès de nous et des athlètes comme les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les kinés, les scientifiques. J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast. Eh ben bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau podcast, on redémarre une nouvelle série de podcasts. Et ben le premier invité du podcast c'est Tony Pouliquin, donc du CN Brest, je vais le laisser se présenter. Mais le but de ce podcast aujourd'hui c'est de parler un petit peu de la formation du nageur. Et j'ai profité de ma venue sur Brest là, pour évoquer ça avec Tony, parce que le CN Brest c'est un club qui depuis très longtemps sort des nageurs. Forme des nageurs, est capable de former des nageurs et de les accompagner après jusqu'au haut niveau. Donc voilà, je voulais voir un petit peu avec Tony pour qu'il puisse nous présenter un peu le mode de fonctionnement du club concernant la formation et puis voir un peu comment quelles pistes aussi d'amélioration il peut avoir s'il en a quelques-unes. Donc voilà, Tony, je vais te laisser te présenter.
Ben, bonjour à Eric, bonjour à tous. Donc moi, Tony Pouliquin, je suis salarié du CN Brest depuis 2010. Donc coach par vocation et en charge de mission administrative par nécessité au départ et puis par intérêt par la suite. Donc voilà, ça permet d'élargir un peu mon champ de compétences et aussi d'intégrer l'évolution structurelle du CN Brest au fil des années, au fil de l'évolution sociologique qu'on est en train de vivre actuellement, qui rentre dans la discussion qu'on va avoir sur la formation du nageur.
Donc là, maintenant, tu as des missions au bord du bassin, mais aussi pas mal de missions en dehors d'organisation du club.
Voilà, tout à fait. En fait, j'accompagne Steven, qui est l'entraîneur principal du groupe Elite. Je l'accompagne sur l'entraînement du soir, sur les stages, les compétitions, etc. Donc j'ai gardé ce lien important au bassin et le binôme que j'ai avec Steven depuis 1997, notre année de rencontre. Donc voilà, c'était un peu figé ce fonctionnement qu'on a tous les deux depuis des années et apporter autre chose pour la structure.
D'accord. Donc si on parle un peu plus de formation du nageur, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment vous fonctionnez sur le club de Brest et nous faire part un peu de votre expérience et puis de quelle piste aussi tu vois justement quand tu parlais d'évolution sociologique de l'évolution de la natation aussi de voir un peu quelle piste vous avez.
Alors ouais, je vais parler de ce qu'on fait à Brest qui n'est ni une vérité parce qu'elle est toujours en mouvement, ni une réussite totale parce qu'on est confronté, je pense, à ce que vivent un petit peu toutes les structures en France actuellement avec à la fois une baisse de pratiquants, une baisse d'envie et puis une autre approche qu'on doit avoir qui est plus une approche naturelle avec les enfants mais plutôt convaincre des parents qui sont un petit peu dans des démarches plurielles, c'est-à-dire découvrir d'autres pratiques, faut que ça aille vite, faut que ça rentre tôt, etc. Donc, en fait, nous, on avait un fonctionnement qui était assez simple et qui est sûrement conforme et transposable à d'autres structures en France, c'est-à-dire que, étant sur une ville moyenne, considérée comme une métropole, mais la plus petite métropole de France, on a plusieurs bassins à Brest, donc il y a cinq piscines, qui sont des petites piscines, il y a un bassin de 56 couloirs, mais le reste, c'est des bassins de 25. 4, 5, 6 couloirs et un bassin d'apprentissage. Et dans chacune de ces structures, on avait une école de natation avec des mises à disposition de maîtres nageurs. Donc ça nous permettait d'avoir dans chaque quartier en fait des écoles de natation pilotées et entraînées par des maîtres nageurs municipaux qui avaient cette vocation d'envoyer un maximum de nageurs dans nos sections sportives et nous permettait d'alimenter du coup le cursus de catégorie jeune facilement. Ça fait maintenant presque 10 ans qu'on a perdu ces mises à dispo municipales. En fait, il y a un décret qui était en projet de fin de ces mises à dispo. À partir du moment où, à la mairie de Brest, ils ont eu connaissance de la possibilité de ce décret-là, ils ont décidé de stopper. Voilà. Ce décret n'est jamais sorti, mais nous, on s'est retrouvés du jour au lendemain sans mise à dispo de ménageurs. Donc, on a dû réorganiser un petit peu notre fonctionnement avec notre RH pour essayer de garder cette dynamique. L'idée dans la discussion, c'était à la fois d'identifier ce que représentait la ville pour les Brestois, les cours qu'ils proposaient et ce que faisait le CN Brest. Ce qui était important parce que dans beaucoup de villes, la municipalité se garde la partie apprentissage et permet seulement aux clubs de bénéficier des créneaux quand les enfants arrivent au collège. Là où nous, on a réussi à discuter avec eux, c'est qu'on leur a dit, écoutez, vous faites un petit peu une approche de sauvenage, de voilà, juste apprendre les bases du nageur. Nous, on fait du sportif. Et on fait du sportif dès l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a une proposition qui est totalement différente et du coup qui est lisible et qui va pas vous faire du tort ou autre chose.
Rentrez pas complètement en concurrence, quoi.
On rentre pas en concurrence, on se démarque par le fait que nous, dès les cours d'apprentissage, c'est 2 cours par semaine chez les petits, alors que eux, c'est un cours. Voilà. Donc il y avait une démarche qui était totalement différente. On avait ce biais fédéral qui nous permettait de nous dire, nous, on fait du sportif, c'est notre cœur de métier. Voilà. Et puis toute l'histoire du CN Brest qui est aussi derrière nous a permis de leur faire comprendre ça avec une mairie qui nous accompagne quand même globalement bien. Donc aujourd'hui, on ne fonctionne plus avec ces mises à dispo, on fonctionne toujours sur les bassins. Il y en a un dans lequel on ne va plus parce que c'est trop compliqué en termes de transport, de RH, de coûts, etc. Donc on se concentre sur 3 bassins essentiellement pour avoir cette offre de quartier et la piscine d'apprentissage qui est un bassin ludique juste pour le début, l'apprentissage de la natation. Voilà. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet ça a été pendant le Covid où on a eu un peu de temps pour réfléchir et les coachs et toute l'équipe étaient mobilisés en fait pour qu'on se remette un peu autour de la table. Bon, c'était en distanciel mais au moins pour qu'on ait une réflexion sur notre approche. Des groupes auxquels on avait en charge dans l'apprentissage de la natation. Donc on suivait, nous, un petit peu ce qui se fait partout, NF1, NF2, NF3, donc ces fameux 3 niveaux, avec ces passages de tests qu'il y avait encore. Et en fait, on s'est rendu compte que on était, nous, basés sur plutôt des âges et pas sur des niveaux. C'est-à-dire qu'on avait en tête de se dire, voilà, à 9 ans, tu dois savoir faire ça. Sauf que la réalité, et surtout la réalité post-Covid, c'est qu'à 9 ou 10 ans, on ne sait plus faire
Oui, bien
ce qu'on
sûr.
pouvait faire avant. Donc en fait, nous, on a diamétralement changé notre approche. On est passé sur 7 niveaux d'apprentissage, donc du niveau 0, enfin apprentissage, je ne sais pas nager, jusqu'à la fin du cursus primaire. On a 7 niveaux, et ces 7 niveaux-là sont validés avec des compétences que doivent avoir les enfants pour passer au niveau supérieur. Le rendre aussi plus attractif avec des bonnets de couleur qu'on donne aux enfants, des noms, voilà, c'est
Chaque groupe
le
a un nom
crocodile,
particulier,
voilà, il y a un nom, il y a un animal associé, il y a certains passages de niveau où on leur donne voilà, une paire de fingers, un tuba, il y a des petites choses comme ça, donc qui permet aussi aux enfants d'avoir ce petit challenge, d'avoir envie de passer l'année
de
suivante dans le
monter de
groupe
niveau, ouais.
supérieur. Donc ça a été quelque chose qui est une réussite. C'est sûrement perfectible dans la façon dont les éducateurs ont la charge de ces niveaux-là parce qu'il ne faut pas qu'ils restent figés dessus, il faut aussi construire les niveaux d'après. Mais au moins, c'est une bonne base et ça permet à tout le monde de savoir exactement ce qu'on attend à l'issue de ces 7 niveaux. Parce que je pense que la réussite et la construction du nageur, elle se fait dans ce fléchage-là, c'est-à-dire, voilà, nous, on a une structure qui a à peu près une douzaine d'éducateurs. Donc, il y en a la moitié qui sont en temps plein, l'autre moitié qui sont des entraîneurs vacataires. donc ils sont pas en temps plein, mais par contre, ben, tout le monde travaille pour que le nageur il ait les mêmes compétences à la fin. Voilà. Et moi, je sais que si je vais voir un cours de niveau 6, je sais que je dois avoir des attentes et je dois voir des choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. L'idée, c'est que le nageur, il sorte de cette école primaire avec un bagage technique et de compétences qui va pouvoir être utilisé après, si le nageur entre en section sportive ou alors s'il va en groupe compétition ou même si, bah, il reste dans le groupe loisir. Donc ça, c'est le premier volet, je pense, dans la formation dans lequel nous, on est attaché, c'est-à-dire identifier cette capacité que vont avoir les éducateurs à avoir ce projet général, avoir une vision. Moi, j'entraîne du niveau 1, je sais qu'au niveau 7, le nageur, il doit être comme ça. Donc je sais, je suis pas surpris, je fais pas mon niveau 1 dans mon coin. Et moi, si je fais du niveau 7, bah, je peux aussi me dire, mais pourquoi il n'a pas ça? Comment ça se fait que je trouve que le groupe de nageurs, ils n'ont pas acquis ceci ou ça? Donc ça permet aussi dans la discussion de... Bah soit de se remettre un petit peu en question, ou alors d'identifier peut-être des nouveaux items qui sont peut-être pas adaptés au niveau, trop tôt, trop tard, etc. Voilà.
Et là, justement, tu parlais de la discussion entre éducateurs. Vous avez mis en place un process qui vous permet de vous regrouper, d'échanger. Alors, tu as dit, il y a une douzaine d'éducateurs, donc ça, c'est pas facile de regrouper 12 personnes, mais est-ce que vous organisez comment, en fait, pour...
Alors c'est encore balbutiant dans le fonctionnement. Ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'il y a des évaluations de milieu d'année et des évaluations de fin d'année qui ne sont pas faites par les éducateurs qui sont responsables des groupes. C'est-à-dire qu'on switch les groupes à ce moment-là pour venir évaluer. Donc ça permet d'avoir un petit peu un état des lieux de ce qui est fait ou pas. Et après, ben, Steven est lui responsable un petit peu de cette filière un petit peu d'accès. Donc lui, son rôle, quand il le peut, pas assez à notre goût, mais ça c'est la contrainte du haut niveau aussi, c'est d'aller voir ce qui se fait et dire ce qui va pas. Voilà. Ça c'est identifié chez nous. Steven a toute légitimité pour intervenir là-dedans et ça pose pas de problème en fait.
Moi, j'ai vu là hier par exemple que Steven il pouvait aussi donner des conseils au groupe du dessous pendant son entraînement parce qu'il voyait quelque chose. Donc ça, il me semble que c'est quelque chose d'important dans la structure que voilà, qu'il y ait quelqu'un qui fasse un peu office pas de leader mais voilà de leader technique on va dire.
Ouais, c'est ça. Il faut quelqu'un qui pilote et bah on a reçu les magazines de la Fédé ce matin, Parole de coach là, et on a vu tout de suite la phrase de Mathieu Neuillet qui dit qu'un coach, même s'il fait du haut niveau, il doit être capable de savoir apprendre à nager à un
Bien
enfant.
sûr.
Et nous, ça nous a tout de suite sauté aux yeux. On s'est dit, bah exactement. C'est-à-dire que on peut pas enseigner du haut niveau, on peut pas faire de l'accès au haut niveau si on n'a pas la compréhension de ce qui se fait. Voilà, Steven et moi, on a commencé au club par faire l'apprentissage. On a fait tous les groupes qui existent au club, donc on a cette connaissance de la structure et cette connaissance des attentes aussi que nous on a sur le groupe élite. Donc
Bien sûr.
on a c'est aussi dans notre intérêt d'intervenir pour qu'on puisse avoir des nageurs complets quand ils arrivent au niveau collège, lycée, etc. Voilà pour ça. Tu veux qu'on parle de la suite après, un peu plus.
Ouais, de voir un petit peu comment tu verrais l'évolution. Alors après, là vous êtes sur plusieurs piscines, tu as dit une douzaine d'éducateurs, ce qui peut sembler même pour certains clubs peu, hein, puisqu'il y a certains clubs qui pourraient avoir un nombre bien plus important d'éducateurs. Voilà, toi, comment tu verrais une évolution dans le bon sens, hein, bien sûr,
Ouais, bien sûr.
de votre école de natte?
En fait, il y a déjà un constat aujourd'hui, donc je le disais en préambule, c'est que les enfants sont plus forcément attirés par la filière sportive parce qu'on se rend compte que la contrainte a pris le pas sur le plaisir et les valeurs que ça peut apporter. Donc ça, je pense que les enfants par les yeux de leurs parents, en fait, c'est aussi les discussions qui
Bien
doivent se
sûr.
faire à la maison. Moi, je sais que je suis rentré en sport-études. Pas dire par hasard, mais j'étais à l'entraînement, on m'a dit bah tiens après cette année, ben c'est la filière normale, c'est rentrer au collège en section sportive. Ah d'accord. Je suis
J'y
rentré à la
vais.
maison l'année prochaine, je dis c'est ça que je vais faire. Ah d'accord, ok. Aujourd'hui, ça se passe plus du tout comme ça. Quel collège, c'est dans quel quartier, comment sont les profs, public, privé, enfin, voilà, il y a énormément d'autres facteurs qui sont externes à ce que nous, la structure,
Oui, bien
on
sûr.
est censé faire au départ. Donc, il y a vraiment c'est pas un désamour, parce que je pense que les gens sont rentrés dans un système de pratiques un petit peu variées.
Il y a plus de choix aussi
Il y a plus de
dans les
choix,
activités.
les activités, il y a eu les réformes des établissements scolaires aussi, donc il y a les contraintes horaires, il y a l'éducation nationale qui est quand même un sacré mammouth et qui n'est pas toujours facile en fait quand on a des contraintes horaires, etc., à bouger. Donc c'est un petit peu ce combat-là qu'on a en permanence. Et là, bah, on a deux options, c'est soit de se dire, bon, bah, ok, la société change, tant pis pour nous. On laisse tomber, ou alors on réfléchit à des solutions, à se dire comment on peut devenir attractif, qu'est-ce qui va donner envie aux gens de devenir en section naturellement, et puis de poursuivre le parcours de construction du nageur vers le plus haut niveau, quoi. Donc là, on se creuse la tête tous les ans, on se retourne le cerveau tous ensemble, on discute, il y a des désaccords, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas toujours en accord, mais on finit toujours par trouver un consensus. Et on a identifié le fait que le fait d'avoir des cours dans des piscines différentes crée des mini-pôles et des gens qui n'ont pas forcément cette culture associative globale. C'est-à-dire que nous, on est une grosse association, mais le nageur qui va nager à Foch 2 fois ou 3 fois par semaine, lui, il voit jamais en fait l'entièreté de l'association. Il voit jamais comment la grosse machine que c'est. Il est dans son truc, voilà, il paye son adhésion. Tout est dématérialisé maintenant. Donc, ils ont jamais mis les pieds ici dans nos locaux. Enfin, voilà, ils savent qu'ils font partie d'une structure un peu importante, mais sans plus, quoi. Donc, il y a pas cet échange. Il sait pas ce que fait son copain dans l'autre piscine. Enfin.
Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile dans les clubs où il y a un nombre important de piscines de garder ou de créer cette
C'est ça,
culture de
c'est
club.
ça. On s'en est rendu compte vraiment pendant la fermeture pour travaux ici de la piscine de Recouvrance pendant 6 ou 7 mois, je crois. On a réussi à obtenir la piscine Foch, donc un 25-6 couloirs, quasiment exclusivement que pour nous. Et donc à ce moment-là, on avait les élites qui nageaient et on avait les
Les
écoles de
écoles de
notes à
notes, ouais.
côté. Et là, il s'est passé des choses incroyables. Les petits venaient checker les grands venaient voir les petits. Ça a créé quelque chose dont on se doutait, mais dont on n'avait pas conscience que ça se ferait aussi naturellement, etc. Les coachs qui étaient tous au bord du bassin, enfin, on se retrouvait des fois 6, 7, 8 au bord du bassin. C'est autre chose.
Ouais,
C'est autre
bien
chose.
sûr.
Mais en soi, aujourd'hui, on n'a pas, nous, la possibilité matérielle de le faire. Il y a des cours municipaux dans les piscines, il y a l'offre publique, etc. Il y a le besoin du groupe élite de nageurs bassin de 50. Enfin, voilà, il y a tout plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de répéter ce truc-là en permanence. Donc, il faut qu'on réfléchisse autrement. Et on essaye de mettre des petites choses en place qui vont nous permettre de recréer ce lien. Déjà, par exemple, tout simplement sur notre assemblée générale, on l'a scindée en deux parties. Une partie qu'on fait en tout début de saison, qui est une assemblée générale sportive. Donc là où il n'y a pas de vote, où il n'y a pas de choses, on l'appelle assemblée générale parce que ça parle aux gens de se dire que c'est un peu un regroupement. Et après, il y a l'assemblée générale financière classique que l'on connaît un petit peu plus tard dans la saison. Mais lors de cette assemblée générale sportive, on met en valeur donc les nageurs qui ont fait des résultats, on présente les filières, etc. On essaie de mettre un maximum en valeur les nageurs. Et cette année, on a fait un système de parrainage, c'est-à-dire que nos nageurs du groupe élite sont tous parrains d'un des nageurs qui sont au niveau 6 ou 7. Voilà, identifié, donc un tel suit l'autre. Et force est de constater que ça fonctionne plutôt bien. Les enfants prennent des nouvelles, amènent des cadeaux pour les anniversaires. Enfin, il y a un vrai échange là-dessus. Et du coup, ça permet à la fois à nous, à nos élites, de se rapprocher de cette base-là, et à la fois d'être un modèle pour ceux qui sont
De
dans ces
donner
milieux-là,
envie aux jeunes,
de donner
voilà,
envie aux jeunes. Ça, c'est un premier point qui est hyper important et qui vraiment fonctionne. Ne serait-ce que pour l'esprit un peu club. Et le deuxième, c'est, mais ça on le fait depuis plusieurs années, mais là on a vraiment insisté là-dessus, c'est de créer des compétitions internes où justement on regroupe un peu toutes nos écoles de natte dans les différentes piscines, et on se rend compte que de plus en plus ça cartonne. Par le format, on trouve des façons de faire des courses qui sont pertinentes pour les enfants, donc adaptées à leur niveau, il y a des récompenses, il y a des choses. Donc en fait, ça fonctionne bien. On en a une samedi, on doit avoir plus de 80 enfants inscrits sur la soirée de compétition, qui donc 80 sur les peut-être 120 ou 130 que ça. Donc ça fonctionne, et c'est important parce que dans ces catégories d'âge-là, sinon ils n'ont jamais de compétition. Voilà. Le petit gars ou la petite fille qui fait un sport co à côté,
Il a un match,
toutes les semaines il a un
tac.
match. Voilà. Et ben si ça se passe bien en sport co, on peut aisément comprendre que il va vouloir rester au sport co. Voilà. Donc ça, c'est des petites habitudes qu'on a mises en place qui fonctionnent bien. Il nous reste le volet le plus important, c'est la partie scolaire. On est dans notre collège de secteur pour les sections sportives. C'est un collège qui n'est pas dans le quartier le plus Pays de Brest. Voilà, ça s'est un peu dégradé au niveau de la population dans cet établissement-là, sans que ce soit catastrophique et sans qu'on perde des conditions d'accueil qui soient. Enfin, on a des conditions d'accueil qui sont excellentes là-bas. Mais dans l'imaginaire des gens, voilà, faut que ce soit un peu hype pour
Ouais, bien
que,
sûr.
voilà, on est dans un cursus un peu classe, donc on veut que ce soit aussi pareil. Donc là, on a vraiment un gros travail à faire. Je pense que c'est une bataille un peu perdue d'avance parce que malheureusement, on peut pas gagner contre les certitudes des gens. On aura beau leur prouver par A plus B, quand on fait des réunions de présentation de section, on fait venir des anciens nageurs, on fait venir des parents de nageurs qui sont passés par là, etc. On a beau leur montrer, voilà, il est médecin, il fait ci, il est ingénieur, bon, ça accroche pas. Ça accroche pas ou ça accroche plus. Donc je pense qu'il faut qu'on ait un plan B vers le privé, qui est très bien implanté chez nous en Bretagne, les
Oui, beaucoup.
établissements privés. Chez nous, c'est 50-50, hein, public-privé. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on se tourne. Alors pour l'instant, on n'a aucun aménagement, on n'a rien, donc il y a tout ça à construire, mais je pense que c'est le prochain défi d'importance qu'il faut qu'on se donne.
Pour revenir un petit peu sur les aspects techniques, là, tu t'as dit qu'il y avait 7 niveaux dans votre école de natation. Est-ce que tu peux nous les expliquer un petit peu, ces 7 niveaux?
Ouais. Alors nous, sur notre approche de l'apprentissage, on a toujours été bercé entre guillemets par notre formation qu'on a tous passé à l'INAR quasiment, donc sur la pédagogie de l'action, apprentissage sans matériel, voilà, corps flottant, corps projectile, corps propulseur. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qui va nous guider tout au long de ces étapes-là. Donc ça va être vraiment ce qui va caractériser les premiers niveaux de pratique. Jusqu'au niveau 3 en fait, globalement, même si le corps projectile propulseur, celui-là on travaille
Bien sûr,
jusqu'à la fin de la carrière du nageur. Après, on se posait beaucoup de questions sur l'intégration de la brasse parce que elle n'existe pas dans la pédagogie de l'action, du moins pas clairement. Donc nous on a décidé de l'intégrer le plus tôt possible quand même, au moins les bases du ciseau de brasse sur ces niveaux 2 là. Et après en fait on va être sur des apprentissages et des acquisitions qui sont plutôt qualitatives, c'est-à-dire sur la coulée par exemple, on va pas dire je fais une coulée de 5 mètres. On va dire je réalise une poussée, je me laisse glisser et je vais réaliser 5 ondulations qui vont me permettre d'atteindre cette distance. Donc voilà, par exemple la coulée, on va avoir également de la précision en fait. Au global, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, on va pas demander à quelqu'un de faire le moulin sur 25 mètres. Pour nous, ça va pas être ça. Ça va être plutôt d'évaluer la façon dont il a d'avancer efficacement, de se relâcher, d'avoir un mouvement qui est pertinent. C'est-à-dire que, tout simplement, moi, quand je vois des maîtres nageurs qui apprennent à nager en disant ah super tu fais t'es allongé sur le dos et que moi je vois des enfants qui sont effectivement sur le dos, tête plafond, la poitrine surface, mais que le bassin et les jambes sont sous l'eau, pour moi c'est pas être sur le dos. Et donc toute la difficulté réside là-dedans, c'est-à-dire quel degré de précision on donne à ça. Et nous, ce qu'on prône avec Steven, vraiment, c'est on veut que dans le langage des éducateurs et dans l'approche des éducateurs, il y ait cette précision. C'est-à-dire qu'on ne peut dire à l'enfant qui sait s'allonger sur le dos qu'à partir du moment où il a le ventre et les pieds qui sont alignés à la surface. Voilà. Donc en fait, c'est tout cette sémantique qu'on a, la façon dont on va leur expliquer comment aborder la motricité, l'efficacité sous-marine que je pense qu'on va réussir à construire un nageur globalement bien fait. Voilà. Et on n'a pas inventé quoi que ce soit, on a
Bien sûr.
juste pris un petit peu tous les éléments qui caractérisent un bon nageur, voilà, sa capacité à se déplacer dans l'eau, sa capacité à avoir une forme qui lui permet de créer le moins de résistance possible, sauf qu'on les a détaillés de façon à être très précise et que on puisse lui dire, écoute, c'est pas parce que tu sais tourner les deux bras ensemble que tu sais faire du papillon.
Bien sûr.
Donc c'est tout l'enjeu, c'est de se dire, ok, à quel moment on est précis et comment on valide ça auprès des enfants? C'est-à-dire que l'enfant il rentre chez lui, il dit pas, ah, maman, je sais faire du crawl.
D'accord.
Ok, donc c'est plus difficile en fait, je pense, avec des jeunes éducateurs parce que ils n'ont pas vu eux l'entièreté du cursus du nageur et ils se rendent pas compte de ce que c'est d'avoir un nageur de 15-16 ans qui arrive dans un CAF. Qui a le bras qui part
Bien
qui
sûr.
part à gauche ou à droite, qui pousse la fin de poussée uniquement, qui fait jaillir de l'eau
Ils n'ont pas la
derrière.
notion du temps que ça va prendre pour corriger
Ouais, c'est
certains
ça.
points qui devraient être appris très
Exactement.
très jeune.
Et même pas cette conscience de se dire que la gestuelle, une fois qu'elle est acquise et comprise par l'enfant, c'est soit tout bon, soit tout mauvais. C'est-à-dire, si on lui apprend un mauvais geste, mais qu'on lui dit c'est très bien ce que tu fais,
Et qu'il le
il n'y
répète,
a aucune raison qu'il se transforme.
bien sûr.
Voilà. Donc, ça, je pense que c'est vraiment ce côté-là qui est capital et pour toutes les structures en général. Hein. Si on veut être bon, faut être précis. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit dans certaines structures qui n'ont pas forcément des conditions d'accueil des nageurs qui sont très intéressantes, qui n'ont pas des créneaux super, ils te sortent des nageurs incroyables. Parce que le gars, il est dans une petite structure, il fait la formation, il fait l'accès, il sait ce qu'il attend, il a compris que pour être bon, il fallait être précis, il est précis avec les petits, il sait comment il va l'avoir après, ça rentre tout seul.
Bien sûr, ouais.
Donc voilà, il y a plein d'autres facteurs évidemment qui rentrent en jeu, hein, les compétences de. Parce que s'exprimer avec un enfant, c'est pas non plus facile, et comment amener une gestuelle efficace à des enfants, c'est pas non plus très facile. Mais ça, j'ai envie de te dire. Du niveau 1 au niveau 7, on a le temps de le construire. C'est pas la peine en niveau 2, 3, quand des enfants ont 7 ans, de faire des longueurs, des longueurs, des longueurs, des
Déjà,
longueurs.
ouais.
C'est bon quoi. Ils vont en faire suffisamment après. Surtout s'il n'y a pas s'il n'y a pas de consigne, si on ne revient pas sur ce qu'ils font, s'il n'y a pas. Allez, on fait 4 longueurs. Ouais, super. Allez, on passe à autre chose. Non. Voilà. Donc on est en train de. C'est aussi ça le fait de passer de 3 niveaux à 7.
Oui, c'est de
C'est de se dire,
découper, de détailler.
on a plus autant de choses à faire dans le même truc, quoi. On sait qu'on peut se focaliser sur ces trucs-là.
Sur des points
Si ce qui a
précis.
été fait avant est bien, tant mieux. Si j'ai de l'avance, c'est encore mieux. Ça veut dire que le gamin, il n'est pas forcément obligé de faire 3, 4, 5, 6, 7. Il peut faire 3, 5, 4, 7. Enfin, voilà, c'est aussi un challenge pour les coachs de se dire, ah, ils sont tous passés. Dans mon groupe, j'en ai 5 qui ont sauté un niveau, etc. Voilà, je trouve que c'est aussi intéressant pour eux de se challenger là-dessus. Voilà.
Et là, sur tes, tu dis une douzaine d'éducateurs, comment vous les formez, entre guillemets, en interne? Bon, il y en a qui sont là depuis un moment, il y en a avec qui vous bossez depuis longtemps, mais s'il y a un nouvel éducateur qui vient, comment vous allez bosser avec lui?
Alors, l'idée, c'est qu'il soit jamais tout seul. Avec un groupe, donc c'est toujours qu'il y ait un coach référent qui soit présent, référent dans le sens présent depuis plusieurs années, qui a compris la méthode, etc. Parce que on a dans dans toutes nos piscines au moins deux cours ensemble tout le temps,
D'accord.
deux ou trois. Donc ça permet d'avoir toujours cet éducateur qui est là, attention,
Qui peut
c'est pas
échanger,
ça.
qui
Voilà,
peut
nous,
être un peu son mentor
en début
au
de
début,
saison,
quoi.
on essaye de les voir, s'ils ont des questions, on essaie de leur expliquer la méthodo, ce qu'on attend. Voilà, les niveaux, c'est assez clair, il n'y a pas énormément de compétences justement dans chacun des niveaux, mais c'est des choses qui sont précises, voilà, on essaie d'insister là-dessus. Et puis après, il y a ce contrôle, entre guillemets, où Steven ou quelqu'un, on va voir. Si les coachs qui sont avec eux voient des choses qui ne leur conviennent pas, ils peuvent venir nous voir, ils savent très bien nous dire, écoute, j'ai un petit souci, je lui dis, mais ça matche pas, il comprend pas, etc. Mais on y va. En
D'accord.
fait, c'est trop important, parce que c'est la base de tout le fonctionnement de la structure, de passer à côté de ça.
Bien sûr.
Donc il vaut mieux prendre les gens, leur expliquer. Et voilà, s'ils comprennent pas, c'est qu'on soit nous on a fait un mauvais choix, soit eux ont un souci aussi dans leur façon de procéder. Même si nous, notre méthode, c'est notre méthode telle qu'on l'a construite pour eux, c'est pas forcément la méthode qu'eux vont utiliser, mais on s'en fiche à la limite. Ce qui compte, c'est le résultat à la fin. Alors on a typiquement des éducateurs qui n'ont pas eu la même formation que nous, mais avec qui on arrive à avoir les mêmes objectifs parce que eux, ils ont une compréhension et une façon d'aborder les choses différentes. Mais j'ai envie de te dire, peu importe,
Ouais, s'ils
l'objectif et
sont précis, si voilà,
voilà,
s'ils arrivent à.
l'objectif final, s'il est rempli, que les enfants sont contents d'être là, banco, il
Bien
n'y a pas de
sûr,
souci. Au contraire, c'est aussi intéressant pour nous, ça nous permet d'aller voir autre chose. Et puis, même sans être sur la partie apprentissage, de continuer à nous dire, tiens, c'est une bonne situation, c'est intéressant, c'est pertinent, etc. Donc ça, je pense que ça fait aussi partie de cet apprentissage où aussi les coachs continuent d'apprendre.
Bien sûr,
Tout le temps.
on apprend tout le temps,
Tout le temps.
quel que soit le niveau.
Exactement.
Ok, je sais pas si tu as un dernier mot à dire un peu sur sur l'apprentissage et sur le sur la formation du nageur.
Non, je pense qu'il faut vraiment être. On est, à mon avis, à un tournant un peu de société, là. On est un peu en train de se chercher, les gens sont un peu à cran, je trouve, partout. Nous, on fait un sport qui transmet des valeurs depuis toujours, d'abnégation, de dépassement de soi, etc. Je pense que c'est quelque chose qui un jour va porter ses fruits, c'est-à-dire que les gens ils vont vouloir se raccrocher à ça. Là, on est plus un peu dans un monde un peu de désespoir, mais les gens ils vont pas rester dans ce mood-là éternellement, ils vont forcément vouloir aller chercher quelque chose qui va les rassurer, etc. Et je pense que nous, les clubs de natation, on a cette vocation-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on rentre dans le jeu un peu le jeu de la consommation, c'est-à-dire, on constate que les gens
Pas perdre
consomment.
nos valeurs, quoi.
Voilà, les gens consomment, et on va faire de la consommation, on va arrêter de faire de l'accompagnement, on va tarifer, et puis on va se concentrer sur la masse, et puis ça ira. Je pense pas. Je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre un modèle économique qui est viable pour la structure, parce que ça aussi c'est une des clés
C'est important.
de survie du club. Et après, justement, les valeurs que transmettent les coachs et la structure, parce que c'est aussi l'image que doit renvoyer la structure
Bien sûr,
à ses adhérents qui compte. Donc là, il y a un gros travail. Il faut pas qu'on lâche ça, parce que je pense qu'on est une des fédérations et un des sports. Je trouve qu'il représente le mieux ces choses-là, ces valeurs un peu humaines et collectives dans ce sport individuel qui est quand même assez exigeant. Et voilà, tous les clubs de France, quand on se voit, on est content de se voir, on échange sur les bonnes pratiques. Je trouve qu'il y a un vrai dynamisme, il n'y a pas cette concurrence qu'on peut avoir. Alors, évidemment, elle existe sûrement entre certaines
Oui, elle peut
structures,
exister à certains niveaux.
mais. Globalement, je trouve que nous, ici, on le ressent en Bretagne, il y a une très bonne communication. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas d'avoir des nageurs qui décident de venir, le coach pas content parce qu'il voulait le garder.
Bien sûr.
Voilà, c'est des choses qui sont améliorées. Il faut comprendre que on fait tous la même activité sportive. Nous, on a peut-être des conditions qui sont plus favorables à l'accueil de nageurs et puis un projet qui permet de faire un petit peu plus, parce que ça aussi il faut le spécifier. La partie construction du nageur, finalement, je pense qu'elle est transposable dans beaucoup de structures. Tout le monde le fait, tout le monde est en capacité de le faire. le modèle économique est assez simple à mettre en place là-dessus. Mais par contre, dès qu'on va arriver à la construction d'un nageur vers le haut niveau, là, c'est beaucoup plus complexe parce que là, on est sur de la RH qui coûte de l'argent à la
Voilà, ça
structure,
demande
mais
des
qui ne
moyens.
rapporte rien. Voilà. Donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choix de structure comme le nôtre où on transpire l'accès au niveau. Donc on a envie de le faire et les dirigeants sont prêts à faire des sacrifices financiers importants et pas mettre en péril, mais avoir une situation financière qui est fragile. D'ailleurs, on le constate, hein, dans beaucoup de structures actuellement, il y a des difficultés parce que nous, on a envie d'amener ces nageurs-là. Donc, c'est pas tout le monde qui a envie de le faire.
Et tout le monde qui a les capacités de
Et
le
tout le
faire
monde qui
aussi,
a les
hein. Ouais,
capacités de le
bien
faire.
sûr.
Voilà, il y a vraiment une réflexion globale là-dessus. Je pense que ça pourrait être l'objet d'un autre podcast,
Ouais, bien
justement,
sûr.
comment réfléchir à faire l'accès au niveau, puisque nous aussi on s'est bien penché la tête là-dessus. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un peu la vie des clubs, cette école de natte et cet apprentissage de la natation. Mais je pense elle fige. Et elle réunit un petit peu l'ensemble de la structure autour de ça. Je pense qu'un club qui est fort dans son apprentissage, qui est fort dans l'accompagnement de ses coachs à la formation, et ben après ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ils pourront prendre les orientations qu'ils veulent, rester sur l'apprentissage ou alors aller un petit peu plus loin s'ils le souhaitent, mais au moins tout le monde aura travaillé ensemble, tout le monde saura les attendus, etc. C'est pas le mec qui fait du haut niveau qui est tout seul dans son coin, c'est pas
Ouais,
celui qui
qui
fait
arrivera tout
l'apprentissage qui est
seul.
tout seul. Ça marche pas. Ça marche pas.
Eh ben merci Tony.
Merci à toi.
Très très éclairant.
Bon.
Et ben on va suivre tout ça de près et puis
Bien
on
sûr.
aura l'occasion d'en rediscuter.
Super. Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast.